plus près de toi.
Plus près de toi.
Près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird, Pouette Pouette la hurlette, Tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Bonjour, comment allez-vous? Je sens poindre des inquiétudes légitimes à l'approche des fêtes. Ne vous inquiétez pas, on trouvera des façons de les éviter ensemble. Alors j'ai le conducteur de l'émission, c'est-à-dire le déroulé, ça a l'air formidable. Ce matin, ça a l'air. Vous avez vu ce qu'il y a des trucs. Alors, je peux pas le dire.
C'est très riche.
Comment m'aimer ?
C'est très riche.
Oui, c'est très riche.
C'est riche.
C'est bien achalandé. C'est un peu comme une vitrine de Noël, justement. Alors, il y aura plein d'invités. Il y aura des coups de fil. Et puis, on passera avec un chapeau parmi vous pour vous participer à l'émission. Tout de suite, le journal de Thierry Paré. Ça se passe très bien pour vous.
Radio Nova.
À mon tantin.
Les restrictions de circulation ont été suspendues en région parisienne. Aucun pic de pollution n'est prévu par les autorités. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de pollution, hein, bien évidemment. Vivement critiquée par certains franciliens, la circulation alternée mise en place dans la capitale la semaine dernière a été approuvée par près de 2 Français sur 3, 61% si l'on en croit un sondage de l'Institut Odoxa. Si ça semble aller mieux à Paris, en revanche, la situation reste très critique à Grenoble.
Pardon, c'est formidable les sondages. Êtes-vous content? Je suis furieux. Non, 2 Français sur 3. Ah bon, moi je dois pas être furieux. C'est génial de servir des sondages perpétuellement en démocratie, c'est extraordinaire.
Donc pollution du côté de Grenoble aujourd'hui, forte pollution même du côté de Grenoble avec beaucoup de restrictions à la circulation. Christine Lagarde face à ses juges, l'actuelle directrice du FMI, le Fonds Monétaire International bien sûr, comparaît cet après-midi devant la Cour de Justice de la République en tant qu'ancienne ministre de l'économie. Elle est accusée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie face au Crédit Lyonnais. Les audiences doivent durer toute la semaine. Vincent Payon a confirmé hier soir, c'était sur le plateau de France 2, sa candidature à la primaire de la gauche. L'ancien ministre de l'Éducation s'est défini comme un candidat de l'éthique et du rassemblement, plus fidèle à François Hollande que certains de ses rivaux. Et Ségolène Royal, elle n'exclut pas de soutenir Emmanuel Macron pour la présidentielle. Rien n'est fermé, a-t-elle notamment déclaré. Les drapeaux qui sont en berne en Turquie et une journée de deuil qui a été observée hier dans tout le pays. Le double attentat qui a tué au moins 38 personnes, dont 30 policiers à Istanbul ce week-end, près du stade du Besiktas, a été revendiqué par les Faucons pour la liberté du Kurdistan. C'est un groupe qui est lié au PKK, enfin qui serait lié au PKK. Il faut être quand même prudent parce que ce dernier, donc le PKK, ne reconnaît pas les actions de ce groupe autonome. Les Faucons pour la liberté du Kurdistan se sont fait connaître par des actions kamikaze, c'est une technique que n'emploie pas la guérilla du PKK. L'attaque a aussi fait plus de 160 blessés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants de l'organisation État islamique ont repris hier soir la totalité de la ville de Palmyre dans le centre de la Syrie. Ils s'en étaient retirés sous la pression des raids de l'aviation russe dans la matinée, toujours hier. Les djihadistes profitent en fait de la mobilisation de l'armée du côté d'Alep. Il y avait des élections législatives hier en Roumanie. Résultat, une large victoire des sociaux-démocrates qui avaient été écartés du pouvoir en 2015 sur fond d'accusations de corruption après le dramatique incendie, peut-être que vous vous en souvenez, d'une boîte de nuit à Bucarest. Un gouvernement d'experts, entre guillemets, avait été mis en place après cette catastrophe. Un journaliste algérien critique du pouvoir, condamné en juillet à 2 ans de prison pour offense au président de la République, est décédé hier. Il s'appelle Mohamed Tamalt, il avait 42 ans. Il avait entamé une grève de la faim le 27 juin, en fait le jour de son arrestation. Énorme perf du Paris Saint-Germain, qui a réussi à tenir en échec Nice hier soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Le score 2-2, résultat qui permet au PSG de pointer à la 3e place du classement avec 36 points. Monaco est 2e, 39 points. Nice est premier, 40 points. Toujours hier, Lyon a battu Rennes 1-0 et Saint-Etienne a battu Guingamp sur le même score, 1-0. Et puis la Ligue des Champions aujourd'hui à midi, tirage au sort des 8e de finale. On connaîtra donc les adversaires de Monaco et du Paris Saint-Germain.
Merci Thierry Paré, vous étiez bien à 66%.
On est pas mal.
66% de vous est content de ce que vous avez fait, puis le dernier tiers.
J'ai essayé de batailler pour avoir les derniers
33%. Autour de la table, Marie Missé qui prépare sa revue de presse pour tout à l'heure.
Oui.
Vous êtes en plein épluchage, là?
Ah oui, j'épluche.
Vous avez des choses déjà pour tout à l'heure?
Oui, j'ai des choses. J'ai une étude du Parisien qui dit que les jeunes consomment moins de drogue. Pourquoi? Parce qu'ils regardent plus des écrans. Et donc, il dit c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle pour les écrans. Ils éloignent les gens de la drogue.
Donc, c'est l'un ou l'autre.
Voilà. Il n'y a pas entre les deux. Et puis, on doit être content que les jeunes doivent rester vraiment devant leurs écrans. Parce que ça leur permet de ne pas sortir, de ne pas se rencontrer. Et ainsi d'éviter la consommation de drogue.
Donc, si on veut éviter les écrans, il faut proposer de la drogue aux jeunes. Alors,
j'ai l'impression que c'est ce qui se dit.
Mais Méné, on a Christophe Méné, Ahmed Kelly. Vous avez. Bonjour. Bah oui.
Bonjour.
Ben, je crois.
D'abord.
Simplement. Christophe, il y a quelque chose déjà?
Oui, j'ai plein de choses, moi. Vrai ou faux, Edouard? Le citron est-il mauvais pour le foie?
Oh mon vieux, je sais pas, ça doit être bon pour le foie, le citron.
Oui, oui, c'est bon pour le foie.
C'est ça l'info du jour, Christophe, c'est pas ça.
Non, non, non.
Pat, quelque chose ? Oui, Edouard, les escroqueries avec le Pôle emploi, il y en a beaucoup et donc faut se méfier. Je vous dirai tout à l'heure comment faire pour éviter les pièges.
Mystère.
Ça m'étonnerait beaucoup que tu le fasses vraiment. À tout de suite après, là, je sais pas, de la pub, un morceau, la vie, quoi.
7h, 9h, plus près.
Pauline Escande-Gauquier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, vous êtes auteur de Tous Selfie, pourquoi tout s'accro aux éditions François Bourin, paru en septembre 2015. Vous êtes sémiologue, c'est-à-dire, chère Pauline ?
Alors, la sémiologue, en fait, elle a une passion. C'est de porter un regard un petit peu à côté par rapport au regard attendu, convenu, notamment dans les médias. C'est pour ça que je pense que vous m'avez...
Absolument, un regard ou une oreille. Oui, oui, bien sûr.
Voilà,
parce que j'ai demandé à Pauline Escande-Gauquier de venir un petit peu étudier l'émission, étudier les signes, les comportements, ce qui s'y passe, ce qui s'y dit. Donc, de temps en temps, Pauline, vous pourrez intervenir dans cette émission. Il y a Pat. Alors, Pat, par exemple, juste avant le morceau, vous avez promis de vous lancer dans le journalisme d'investigation,
oui.
Pat. Vous étiez intéressé par les fausses annonces d'emploi qui sont des vraies arnaques, cher Pat.
Absolument, Edouard. 27 millions de visites sur le site de Pôle emploi, dont 12 millions consacrés à la recherche d'emploi. Et il y a environ, sur ce site, 4700 fausses annonces tous les ans. Donc, ces fausses annonces, elles sont, je dirais, très simples, mais les gens se laissent avoir. Par exemple, on vous demande d'avancer des frais pour une commande matérielle, par exemple. Donc, en faisant un virement, et une fois que la somme est versée, ben, le prétendu employeur disparaît. Ça, c'est très fréquent. Il y a aussi, on vous demande d'envoyer vos coordonnées bancaires et une photocopie de vos papiers d'identité. L'escroc usurpe votre identité et, bien sûr, se sert des papiers. Donc, c'est très fréquent. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est sur le site de Pôle emploi, donc les gens... Beaucoup de gens se laissent avoir parce qu'ils pensent que c'est
sérieux, qu'il y a le sceau de l'État, que c'est... Oui, que
donc
il
faut être très prudent, Edouard. Voilà.
Merci Pat. Pauline, vous avez commencé votre étude, on est parti pour Pat qui n'est pas journaliste professionnel, non, mais qui a mis une belle humanité, une belle conviction dans ce papier.
Oui, alors en fait, je vois une attitude un peu irritée, voilà, ce qui est l'attitude du sémiologue aussi, qui est extrêmement réactif, notamment par rapport à toutes les formes d'injustice, par rapport aussi à... tout ce qu'on appelle les stéréotypes qu'on peut avoir, tous les discours toxiques. Donc voilà, je trouve que c'est très bien d'avoir encore des gens irrités aujourd'hui.
Il y a une belle indignation chez Pat, c'est un homme debout. Alors on va écouter un peu un grand sémiologue, Roland Barthes, nous parler de la voix.
Tout commence par un mot. Sémiologie.
Roland Barthes, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Oui. Moi, je voudrais savoir ce qu'exigent de vous vos élèves.
Eh bien,
vous avez demandé une fois une étude sur la voix, je crois.
Oui, nous avons essayé pendant un an de travailler sur la voix. Ça a donné de très bonnes choses au niveau de chaque semaine. Nous n'en avons rien tiré par la suite, mais sans scrupule, sans regret, nous reprendrons peut-être le problème.
Je compte sur vous pour fignoler les voix. Un peu détimbré pour l'ustu cru, avec beaucoup d'écho. Au revoir.
C'est quelque chose d'extrêmement énigmatique encore. Et là, vraiment, c'est là où on voit que l'histoire passe et amène des langages nouveaux qui peuvent parler d'une façon nouvelle de choses très anciennes.
Dans votre voix, toujours la même douceur, toujours la même lumière dans vos yeux.
La voix, c'est très énigmatique. C'est vraiment l'endroit du corps, c'est le lieu du corps qui est à la fois le plus désirable et aussi le plus mortel, le plus déchirant.
Mais beaucoup de sciences sont intéressées par la voix.
Toutes les sciences, la physiologie, la psychanalyse, l'histoire de la musique, la science radiophonique en quelque sorte.
La radiophonie, il est 7h13, bientôt 14. Je vous propose café, douche, recouchage ou départ dans la rue. À tout de suite. Alors, on va aller chez le Père Noël, là, parce que à partir de début décembre, si vous écrivez à la poste au Père Noël, le Père Noël reçoit les lettres et vous répond. Et c'est grâce à Véronique Guillon. Bonjour Véronique Guillon.
Bonjour Edouard.
Véronique Guillon, vous êtes chargée, vous êtes responsable de tout le secrétariat du Père Noël.
Tout à fait.
Alors, c'est pas un emploi comme les autres. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment il est, ce Père Noël. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est sympathique, qui est facile d'approche, ou c'est quelqu'un un peu la grosse tête, vu sa popularité?
Non, le Père Noël, il est très facile d'accès, en fait. Il s'adapte à tout le monde, il est très gentil, très généreux et très souriant.
Très bien, il ne prend pas parti dans le débat politique, il est vraiment très ouvert.
Ah, il, travailler tout à fait en dehors du débat politique.
Alors, combien de lettres sont écrites par les enfants ou des adultes, comme Christophe Méné, sont écrites au Père Noël chaque année?
Alors, l'année dernière, nous avons reçu 1 200 000 lettres d'enfants au secrétariat du Père Noël.
Comment êtes-vous sûr que ce sont vraiment des enfants? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un demande une Porsche et une femme plus jeune et plus sympa que la sienne, est-ce que ce n'est pas le signe que c'est plutôt un adulte?
Alors, en fait, effectivement, nous avons aussi des lettres d'adultes. Et on peut, les enfants, déjà, on reconnaît par l'écriture. L'écriture des adultes n'est pas du tout la même. Et puis, nous avons aussi, effectivement, des demandes d'adultes. Mais en majorité, ce sont quand même les demandes des enfants. Mais nous répondons à toutes les demandes.
Alors, est-ce qu'il y a des lettres gratuites pour le Père Noël, du genre « merci d'exister »,« bravo de toi », continue, ou est-ce que ce sont toujours des demandes de cadeaux?
Alors, il y a toutes sortes de demandes. Effectivement, j'en ai une sous les yeux, là, d'un enfant qui est très touchante, en fait, qui dit « bonjour Père Noël, je suis très sage, je voudrais que tu soignes mon papy, car il est très malade. Je veux seulement un peu de chocolat, merci, je t'aime Père Noël ».
Alors, qu'est-ce que répond le Père Noël sur une si jolie lettre?
Alors, le Père Noël, en fait, pour les réponses, la lettre est la même pour tous les enfants, mais nous avons différentes typologies. Donc, nous avons la lettre de réponse pour l'enfant, nous avons la lettre de réponse pour les écoles.
Oui.
Nous avons une lettre de réponse pour les adultes et nous avons aussi une lettre de réponse en braille, hein, parce que nous avons des enfants qui nous écrivent en braille.
Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de déception lorsque le Père Noël répond sans envoyer de cadeau?
Ah non, parce qu'en fait, la lettre du Père Noël est vraiment faite pour attendre le 24 décembre ou le 25 décembre, l'ouverture des cadeaux. Donc, elle est vraiment écrite dans cet objectif et dans cette attente.
D'accord, ce sont vraiment des lettres de mise en attente par le Père Noël qui fait patienter, en fait.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on voudrait en savoir un tout petit peu plus? Est-ce qu'il y a une mère Noël? Est-ce qu'il y a des enfants Noël?
Comment alors, il y a la mère Noël, c'est moi.
Ah pardon,
on vient de l'apprendre.
Pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a un château? Quel est le local où habite le Père Noël?
Alors le local où habite le Père Noël, c'est une pièce très chaude parce qu'on est au pôle Nord. Hein, et donc elle est remplie de lutins qui sont en effervescence pour ouvrir tous les courriers et pour y répondre le plus rapidement possible.
Donc c'est très organisé. Il y a la partie courrier, la partie cadeau, la partie voyage parce qu'il va falloir descendre dans beaucoup de cheminées. Comment c'est organisé?
Alors effectivement, il y a le secrétariat d'un côté, d'un autre côté, il y a la partie où les lutins fabriquent les cadeaux pour les enfants, et tout est bien en secteur.
Mais écoutez, je vous remercie.
L'adresse du Père Noël, qu'est-ce qu'on doit mettre sur la lettre pour que lettre arrive au Père Noël?
Oui, c'est très important, et puis il y a aussi la date là qui approche très très vite. Donc déjà pour la lettre, Père Noël suffit. Après, l'imagination des enfants, c'est que nous avons plein de sortes d'adresses pour le Père Noël que les enfants imaginent, qui sont très jolies. Mmh. Et derrière l'enveloppe, ce qui est très important, c'est aussi de mettre son nom, son prénom, son adresse complète pour que la réponse arrive très très vite. Et tout cela avant le 22 décembre, puisque la fermeture du secrétariat, c'est le 22 décembre. Donc moi, j'invite les enfants à vraiment nous écrire très 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 vite maintenant.
Merci Véronique Guillon.
Merci.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces gens un peu bizarres, voire malsains, qui ne croient pas dans le Père Noël? Il y a des gens comme ça.
Ah ben, s'ils n'y croient pas, c'est qu'ils n'ont pas cette magie de Noël, parce que moi, le Père Noël, je le côtoie tous les jours. Ouais. Donc il existe vraiment.
Je sais qu'il y a certains moments de la journée où c'est moins facile que d'autres. Merci Véronique Guillon.
Merci Edouard, et très bonne journée. Que la magie de Noël opère pour tous.
Bien entendu. Pauline Escangoquier, vous avez écouté cette conversation avec la Mère Noël. Qu'en avez-vous retiré d'un point de vue sémiologique?
Alors, ce que j'en ai retiré, c'est ce besoin de réenchantement des gens, de croire au Père Noël, cette magie de Noël qui est quand même assez fantastique. Et je suis très, très contente d'avoir entendu enfin Maman Noël.
Oui, c'est vrai qu'on ne l'entend pas dans les médias. C'est très... Oui, il y a un machisme dans le monde de Noël.
Un peu comme Madame Colombo, on ne la voit jamais.
Voilà. Et donc, comme je suis assez féministe, je trouve ça bien de donner de temps en temps aussi la parole à Maman Noël, parce qu'on ne voit que Papa Noël.
Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'elle est barbue aussi. À tout de suite. Il est 7h26, nous sommes dans la rue, enquêtés sur le moral ce matin, comment la France se réveille, particulièrement Paris, puisque c'est là qu'est notre reporter Jack Souvent.
Très articulé. Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors,
Jack.
Je suis devant, je suis avec Corinne qui est boueur. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Et on était en train de parler du roule-sac.
Oui, c'est ce qui permet de pouvoir ramasser tous les déchets qui sont au sol.
Corinne,
les dedans,
je n'arrive pas à me visualiser. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Je ne vois pas bien le roule-sac, je comprends le mot, mais je n'arrive pas à le visualiser. Pouvez-vous nous décrire cet objet?
En gros, essayez d'imaginer un peu une charrette.
Une charrette, oui.
Une charrette avec un grand sac transparent, là où, où les gens peuvent jeter leurs déchets.
Mais alors, c'est en mouvement. Ce n'est pas une poubelle fixe, c'est une poubelle en
non,
mouvement.
Non, voilà. C'est sur deux roues. On met un sac dessus et ça permet de balayer et de mettre tout ce qui traîne par terre, en fait.
Corinne, le roule-sac n'est donc pas autotracté. Il faut une rouleuse de sac. Il faut quelqu'un qui l'actionne, qui le pousse. Et,
voilà,
et c'est là que vous intervenez, Corinne, à ce moment-là.
Voilà, exactement. C'est ça.
Alors, est-ce que quand vous arrivez avec votre roule-sac, le roule-sac est déjà rempli ou est-ce qu'il est vide et vous le remplissez des déchets déposés dans la nuit par les Parisiens?
Voilà, nous, les roule-sacs, ils sont fermés dans un local avec un cadenas. On n'a pas le choix. Et oui. Donc, le matin, quand on vient, on met un sac plastique. Et dès qu'on a fini notre travail, en fait, on enlève le sac pour que le collègue d'après, il retrouve un matériel propre.
Propre. Alors, chère Corinne, on commence donc la journée par le décanassage, qui est vers quelle heure, alors?
Le
décan... J'essaie de le dire bien. On enlève le cadenas, le déca...
Nous commençons à peu près à 6h30.
6h30, on enlève le cadenas, départ voilà. Dans la rue. Et là, à 7h30, Corinne, vous avez déjà... Ça a été sale cette nuit, vous avez trouvé la France dans quel état ce matin?
Là, voilà, j'étais de repos ce week-end. Là, je reviens ce matin un petit peu, mais bon, ça va.
Bon, j'engueule personne. Vous avez des noms?
Comment, des noms?
Des noms de gens que j'engueule, des gens qui seraient mal comportés, qui ont été sales. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bizarre?
C'est un peu tout le monde. Il n'y a pas de nom particulier.
Balancer.
Non, c'est pas mon style.
Vous êtes
humain en général.
Dans quel quartier, Corinne, on est là?
Moi, je suis au pied de Montmartre.
Alors, Montmartre, beaucoup de touristes. Vous me disiez, les Coréens du Sud sont très sales cette année.
Ça, je ne sais pas de quelle origine ils sont. Il y a un mélange.
Oh, un petit peu de racisme le matin, vraiment.
Non, quand même pas. Non. L'être humain en général, voilà, il n'y a pas de quiproquo sur toutes les origines.
Donc il n'y a pas des matins où vous êtes consterné, vous dire putain, ils charrient quand même, ils ont jeté des trucs bizarres.
Ah, les gens, il n'y a pas de remords, hein. Les gens jettent et encore ça va parce que c'est pas l'été. Mais bon, sinon en été, c'est un peu plus agité, on va dire.
Ah bon?
Oh oui, Montmartre.
Qu'est-ce qu'on trouve l'été? Qu'est-ce qu'on trouve dans les poubelles de Montmartre l'été?
Plein de bouteilles, plein de choses assez sympas.
Les bouteilles qui ont été bu la veille.
Lunettes à Michou.
Quand vous dites des trucs un peu sympas.
Ouais, on va dire c'est sympa. Ouais, non, c'est des déchets, des aliments et beaucoup de bouteilles d'alcool, malheureusement.
Vous buvez pas pendant le service?
Ah non. Non.
Est-ce qu'il y a parfois des surprises, des trésors? Vous êtes déjà tombé sur des choses qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient rien à faire là? Ou des gens?
Plutôt des gens.
Des gens
qui vous disent bonsoir alors qu'en fait, il est 6h30 du matin. C'est assez marrant, mais bon. En général, ça se passe gentiment. C'est des groupes de jeunes et ça se passe bien. On n'a pas trop à se plaindre, ça va.
Vous avez une voix super, vous avez l'air de très bonne humeur, Corinne.
Merci.
C'est très agréable de vous entendre.
Ah, c'est gentil. Ouais, je suis comme ça. Ouais, il faut. Hein.
Justement, Edouard, quand on était un peu dans les, avec Roland Barthes et ça dans le langage, on était devant le théâtre et Corinne n'a jamais été au théâtre. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais été au théâtre.
Non, sincèrement, non, jamais.
Oui, et donc au théâtre, on travaille la voix et on voulait travailler un petit peu les gutturales dentales et les palatales et les gutturales vélaires. Donc le I, par exemple.
Le I? Et vous faites comment? I?
Voilà.
Il est bien ce I. Essayez une sifflante, essayez d'insister sur un S.
Un S.
Sifflent sur nos
têtes. Que sont ces serpents qui sifflent?
Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes?
Atmen. Et la voix un petit peu gutturale, c'est la voix un petit peu.
Vous étiez devant le théâtre de l'Atelier ou pas là? Parce que vous étiez à Montmartre.
Ah, on est juste devant.
Oui, ouais. Alors vous avez gagné deux places grâce à moi parce que vous n'êtes jamais allé au théâtre et vous allez y aller demain, mardi. Voilà. Voir l'éveil du chameau. L'éveil du chameau.
Ah bah, Atmen a vu la pièce, il va nous en parler avec Pascal Elbé.
Voilà, vous avez gagné deux places. J'appelle demain.
Non, c'est pas obligé demain, Corinne.
Non, parce qu'en fait,
quand vous voulez, avant le 31.
Mon mari travaille aussi, malheureusement.
Oh, bah si, un mari, ça intéresse moi, Atmen. Atmen,
ça m'intéresse beaucoup moins.
Échangez vos coordonnées avec Jacques et vous aurez deux places.
Deux places.
D'ici ce week-end. Franchement, ce sera avec très grand plaisir.
Mais c'est fait, c'est acté.
Atmen Khelif qui aime bien, c'est son côté Baba Khelif. Il fait des cadeaux en public. Merci
à tous.
Merci, on vous embrasse très très fort, Corinne.
Merci,
et Jacques, souvent un peu moins
aussi,
fort quand même.
Parce vous, hein.
Très très bonne journée, salut.
Merci, au revoir.
Radio Nova. Ah oui, incroyable, on enchaîne direct. Bam!
bam, c'est une... tout va bien, Pauline Escand, Gauquier.
Oui, oui, j'adore.
Bon, très bien. C'est notre sémiologue qui étudie l'émission toute la matinée. Voici Thierry Paré. Il y a une petite particularité sur Thierry Paré, c'est qu'il a changé de place. Hein, pour les auditeurs qui sont très précis, il y a quelques minutes, il était devant le micro de droite et il est devant le micro de gauche. Continuez à nous appeler à ce sujet, le journal.
Christine Lagarde qui va se retrouver face
Attendez,
à ses juges.
Remettez un petit truc, Hermès, s'il vous plaît, un truc.
Ah, je crois qu'on y est, là.
Non, mais un truc qui est plus qui relance le journal. Tanana, ouais. Vous n'avez pas un tanana?
Alors, attendez, un tanana.
On peut le faire à la bouche, non?
Le rappel des titres de Thierry Paré.
Christine Lagarde face à ses juges. L'actuelle directrice du FMI, le Fonds monétaire international, comparaît cet après-midi devant la Cour de justice de la République en tant qu'ancienne ministre de l'économie. Elle est accusée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie face au Crédit Lyonnais. L'affaire LuxLeaks qui revient sur le devant de la scène judiciaire. Les deux lanceurs d'alerte à l'origine du scandale vont se retrouver devant la justice luxembourgeoise ce lundi pour un procès en appel. Condamnés en première instance à de la prison avec sursis, ils espèrent bien sûr être blanchis. Affirmer un soutien à la population, c'est le message qu'entendent adresser Cécile Duflot, Hervé Mariton et Patrick Menucci à la population syrienne. Les trois parlementaires sont partis pour la Syrie hier. Ils entendent accompagner le maire d'Alep Est le plus loin possible. Oui, parce que ce dernier était en visite en France ces derniers jours et il rentre à Alep. Les trois parlementaires français doivent, quoi qu'il arrive, rentrer en France demain. Profitant de la mobilisation de l'armée syrienne à Alep, justement, les combattants du groupe État islamique ont repris hier la totalité de la ville de Palmyre, dans le centre du pays. Ils en avaient pourtant été délogés hier matin sous la pression de raids de l'aviation russe. Les drapeaux sont en berne en Turquie. Une journée de deuil a été observée hier dans tout le pays. Le double attentat qui a tué au moins 38 personnes, dont 30 policiers à Istanbul ce week-end, près du stade du Besiktas, a été revendiqué par les Faucons de la Liberté du Kurdistan, un groupe qui serait lié au PKK. En tout cas, il est vendu comme ça. C'est pas si précis parce que ce dernier, donc le PKK, ne reconnaît pas les actions de ce groupe autonome. Les Faucons pour la Liberté du Kurdistan se sont fait connaître par des actions kamikazes. C'est une technique que n'emploie pas la guérilla du PKK. L'attaque a aussi fait plus de 160 blessés. La compagnie aérienne Iran Air a annoncé hier l'achat de 80 avions commerciaux Boeing. C'est un contrat sans précédent entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution de 1979. 17 ans de travaux plus tard, la Suisse a inauguré ce week-end le plus long tunnel ferroviaire du monde, 57 km. Ce tunnel, il est baptisé GBT pour Gotthard Base Tunnel. Ce tunnel relie la ville de Zurich à Lugano et il traverse le mont Saint-Gotthard, d'où son nom, dans les Alpes. Les restrictions de circulation, elles ont été suspendues en région parisienne où aucun pic de pollution n'est prévu par les autorités, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution, bien sûr. Soucieux de ne pas enterrer la compétition trop vite, le PSG a préféré s'en tenir hier soir à un match nul face à Nice au Parc des Princes, le score 2-2. C'était le dernier match de la 17e journée de Ligue 1. Auparavant, Lyon avait battu Rennes 1-0 et Saint-Etienne avait battu Guingamp sur le même score, 1-0. Au classement, Nice est premier, 40 points, Monaco est deuxième, 39 points, le PSG est troisième, 36 points. Et puis toujours en foot, on connaîtra ce midi les adversaires de Monaco et du PSG en Ligue des Champions, 8e de finale.
Christophe Méné, Lyon, ça vous a à vous qui êtes le grand supporter de l'OL, oui, de l'émission?
Eh bien, c'était, comme l'a dit un des joueurs lyonnais, un match de merde.
Voilà. Un match de merde. Voici vraiment, c'est fin, c'est vraiment argumenté. Bravo pour ce commentaire. Thierry Paré, vous avez beaucoup insisté sur la Suisse, sur des régions que vous avez l'air de bien connaître et qui sont liées à l'évasion fiscale. Comment expliquer ça? Merci beaucoup, à tout de suite. Alors, Bouygues Télécom, Renault, French Touch, Engie Verte, Ibiza 7, on ne sait qu'acheter ce matin, Pauline, Christophe, qu'est-ce qui vous a attiré?
Bah, moi, c'est les citations absurdes. Ce monsieur qui dit « j'aime pas le ski », absurde, non? Non, je trouve pas ça absurde parce que moi non plus, j'aime pas le ski.
D'accord, Christophe, je crois que vous n'êtes pas attentif au message de Engie, Pauline. Non,
moi, ce qui m'a attiré, c'est il y a eu deux pubs pour la voiture.
C'est beaucoup de voitures
et
le matin.
Oui, surtout c'est que la mythologie de la voiture est toujours extrêmement présente. Voilà, donc c'est ça qui m'a interpellée avec toujours ce discours autour de la voiture. Enfin, Barthes disait, hein, là j'ai amené un petit livre qui s'appelle Mythologie, qui est très connu, que l'automobile est l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques.
Donc on peut aller prier dans sa voiture.
Voilà,
donc on peut
ça,
en acheter
un
deux.
Lieu, un lieu de pas confession et un lieu de prière.
Achetez tout, rendez-nous service à tout. Ah mais ça s'est arrêté incroyablement net, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est la fin du morceau.
Mais ça manque de grâce, il n'y a pas eu ce côté un petit peu qui
j'appelle l'artiste.
Que vous laissiez, oui, enfin je ne suis pas sûr que ce soit de sa faute à lui. Bonjour Martin Untersinger.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette prononciation un peu germanique de votre nom? Vous êtes journaliste au Monde et le Monde s'est associé aux révélations d'Edward Snowden sur les coups de général qui gagne dans le monde. Alors, les dernières révélations font état d'écoute dans l'air, puisqu'on s'est aperçu que beaucoup d'avions étaient écoutés par les services américains. Et sur l'Afrique, nous sommes avec aussi Thomas Baumgartner, notre rédacteur en chef.
Bonjour, bonjour Edouard.
Qui s'est intéressé de près à ces écoutes étranges.
Oui, le journal Le Monde a effectivement publié plusieurs révélations la semaine dernière issues du traitement des données qui avaient déjà été rendues publiques par Edward Snowden, qui est cet ancien agent de la NSA qui a aujourd'hui quelques problèmes et qui se trouve en Russie, parce que justement il a rendu public toute une masse de données. Et justement, une des questions, Martin Luther King, c'est que comment on traite cette masse de données. Tout d'un coup, d'abord, c'était il y a 3 ans, donc il y a du nouveau 3 ans après. Ça veut dire que les données sont tellement complexes qu'il faut des mois et des mois pour les extraire et en dire quelque chose.
Alors, je vais peut-être un peu vous décevoir, mais en fait, ces données, c'est essentiellement des présentations PowerPoint. Donc, c'est pas tant qu'il faut du temps pour les comprendre, il en faut, on a travaillé dessus pendant plusieurs mois.
Il faut supporter le PowerPoint.
C'est la principale difficulté. Non, c'est surtout
Pardon de vous interrompre, je sais pas ce que c'est, moi.
C'est tout simplement souvent c'est les documents que des agents de la NSA ont préparés à destination d'autres agents de la NSA pour expliquer ce qu'ils faisaient dans leur métier tous les jours. Donc il y a des couleurs flashy, il y a des titres partout, il y a des belles images, il y a aussi beaucoup de jargon technique. C'est aussi pour ça que c'est difficile à comprendre aussi. Et donc voilà, donc on est allé à New York dans les locaux du site d'information The Intercept qui a actuellement la garde de ces documents.
Et c'est un journal qui a été fondé, il faut peut-être le dire, notamment par Laura Poitras, qui avait fait ce documentaire Citizen Force sur Edward Snowden, qui avait reçu en 2015 l'Oscar du meilleur documentaire.
Un excellent documentaire.
La suite justement de ces questions-là, c'est d'abord ce que vous avez publié la semaine dernière, une sorte de petit feuilleton que vous avez publié dans Le Monde, et notamment effectivement ce que vous disiez, Edouard, à l'instant, depuis une dizaine d'années, apparemment, les avions, en particulier les téléphones dans les avions, donc des passagers, pouvaient être écoutés par les services secrets américains et anglais, et en particulier sur Air France et sur Air Mexico.
Oui, en fait, mais sur une vingtaine de compagnies, en fait, l'essence même de la NSA, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on peut aller intercepter les communications, encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ils se sont aperçus que dès le début des années 2000, les compagnies aériennes permettent aux passagers d'utiliser leur téléphone dans les avions, et ils ont essayé comme ça, et donc c'est les documents qu'on a. On a littéralement le travail d'un agent qui dit bon, alors comment est-ce qu'on va récupérer toutes ces données, et qui montre comment il a industrialisé un peu le processus. Et donc il explique qu'il y a 20 compagnies aériennes et que ça permet de surveiller les gens. Et évidemment, c'est essentiellement des gens qui ont les moyens, puisque c'est souvent un service qui est proposé, en tout cas au début des années 2000, dans les classes business. Et qui voyage en classe business, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est des chefs d'État, des diplomates, des chefs d'entreprise, etc. Donc c'est surtout, on suppose, parce que le document ne le dit pas vraiment, que c'est essentiellement de l'espionnage diplomatique et économique.
D'accord, il doit y avoir aussi le goût de s'ennuyer beaucoup, parce qu'il doit y avoir des conversations extrêmement emmerdantes. Ça va toi, oui. Et toi, ça va? Et la maison, elle est prête? Oui, elle est prête. Il faut être prêt aussi à passer beaucoup de temps sur des trucs très chiants.
Ouais, après, ils ont des ordinateurs aussi pour récupérer seulement les messages qui les intéressent.
Avec des mots-clés?
Tout à fait.
Ah, dès qu'on dit, par exemple, moins 25% sur la semaine des soldes. Alors, il y a aussi cette histoire. Qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrique est spécialement écoutée?
Eh ben, on a découvert dans des documents, alors pas de la NSA, mais du GCHQ, qui est l'équivalent, donc l'agence qui écoute les communications, mais en Grande-Bretagne, des comptes rendus de tests d'interception. Ils ont écouté les satellites, et chaque nouveau satellite, ils faisaient un petit rapport en disant, voilà, dans ce flux satellite, les communications de gens qui sont intéressantes. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de diplomates, de chefs d'État à haut niveau des pays d'Afrique, et c'est pas contre le terrorisme, c'est essentiellement pour préserver les intérêts de la Grande-Bretagne, et c'est la plupart des cas des atteintes à la souveraineté de ces pays.
Mais ce qui est neuf, ce qu'on comprend en lisant ces articles dans Le Monde, Martin Luther King, c'est que c'est l'industrialisation de l'espionnage, en fait, parce que les uns et les autres s'espionnent mutuellement, et qu'il n'y ait pas d'amis dans le monde de la diplomatie, par exemple, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la masse de données, en fait, qui est absorbée par les services des uns et des autres.
Ouais, on le savait déjà un petit peu, mais c'est vrai que ça c'est encore plus clair maintenant. C'est l'idée, on voit vraiment, et on le sait grâce au document Snowden, que la NSA fait vraiment du renseignement technique à l'échelle industrielle. C'est vraiment, on intercepte tout ce qu'on peut au maximum, au cas où il y aurait dans toutes ces données quelque chose d'intéressant dont on s'apercevrait que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Donc là, c'est vraiment intercepter le maximum, intercepter toute la botte de foin pour être sûr de ne pas rater l'aiguille.
C'est légal tout ça, parce que je me rappelle à l'époque de Mitterrand, il y avait quelques écoutes à l'Élysée, ça a fait des scandales terribles. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est légal et...
Bah, tout ce que font ces agences en dehors de leur territoire national, c'est ni légal ni illégal, c'est...
Voilà. C'est comme ça.
C'est comme ça.
Est-ce que vous êtes dans la parano, Martin Untersiger? Est-ce que vous téléphonez sur des réseaux particuliers? Est-ce que vos emails sont envoyés sur des sites
web? Un petit peu en venant ici, j'ai fait attention de pas être suivi, oui.
Oui. Vous n'êtes pas suivi physiquement, mais je pense que tout ce que vous dites peut être écouté par des gens chez eux. C'est un moyen d'espionnage qu'on appelle la radio. C'est de l'espionnage accepté par ceux qui parlent. Merci Martin Untersiger.
Merci à vous.
Vous allez retourner dans vos locaux du Monde qui sont entièrement protégés des écoutes extérieures.
Je suis en vacances, mais oui. À terme, oui. C'est ce qui va se passer.
C'est codé, bien entendu. Martin Évidemment. Untersiger est en vacances. À bon entendeur. Bonne journée. Il est très beau, ton cahier de poésie, Raphaël. C'est celui de l'année dernière? Oui.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant. Un poème.
Alors Raphaël, l'année dernière, donc t'as encore ça, un cahier de poésie avec des dessins d'un côté et le poème de l'autre?
Non.
Cette année, c'est fini?
Non. Oui.
Pourquoi? Parce qu'on trouve que vous êtes trop grand ou pourquoi on vous fait plus faire des dessins?
Ah si, on fait des dessins encore.
Là, c'est quoi? Là, il y a le parapluie. T'avais fait une dame qui un monsieur qui protège une dame de la pluie. Il y a quoi? Lequel tu as choisi aujourd'hui?
Les chevaux de l'Oural.
Les chevaux de l'Oural. Dis donc, tu es déjà allé en Oural?
Non.
Et le poème t'a donné envie d'y aller?
Je sais pas.
Oui, c'est ça. Bah, bravo le poète si ça donne même pas envie. Alors on écoute les chevaux de l'Oural.
Quatre chevaux sont venus de l'Oural. Ils sont venus crinière blanche au vent. Robe de neige et sabots de cristal. Montés par quatre cavaliers tout blancs. Laïlaïla et Nicolas, cache bien ta femme. Laïlaïla et Nicolas, le plus beau l'emportera. Qu'elle était belle en coupant le grain, taillée cambrée, longs cheveux de lin. Elle avait l'air d'une étoile de blé. Les cavaliers sont venus l'admirer. Laïlaïla et Nicolas, cache bien ta femme. Laïlaïla et Nicolas, le plus beau l'emportera. Le premier dit, je m'appelle le printemps. Et le deuxième dit, je suis le jour. Je suis la vie, dit un autre en dansant. Le quatrième dit, je suis l'amant. Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer ta femme? Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer pour ça?
J'adore. Alors, attends, on va attendre. Tu vas nous apprendre. Messieurs, Christophe, Atmet, Tito, on va reprendre le refrain. C'est toi qui nous fais chanter, d'accord? Attention, on fait le quoi? Le premier, Laïlaïla et Nicolas? Alors, on reprend après toi. Attention, vas-y.
On est prêt.
Vas-y, Raphaël.
Oui. Laïlaïla, Nicolas, cache bien ta femme. Laïlaïla, Nicolas, le plus beau l'emportera.
À vous. Laïlaïla, Nicolas, cache bien ta femme. Laïlaïla, Nicolas, le plus beau l'emportera. Le deuxième.
Laïlaïla, Nicolas.
À quoi beau?
Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer ta femme? Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer pour ça?
Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer ta femme? Laïlaïla et Nicolas, à quoi bon pleurer pour ça? Raphaël, à ton avis, qui a bien chanté le refrain dans la bande de l'émission? Atmen, Christophe ou Tito? Ah, hésitation, il cherche à l'acheter
cadeaux.
C'est Raphaël.
C'est mignon. Mais il a raison, ce Nicolas, de cacher sa femme.
Pourquoi il a raison?
Il a raison parce qu'il faut cacher sa femme.
Oh la vache. Allez, vous m'inquiétez, Atmen. Oui. Sortez. Vous me faites très peur parfois.
Un œil sur la girouette, l'autre sur le baromètre, c'est l'état de la mer, très important. L'état de la mer.
Pendant qu'en studio, Raphaël cherche à expliquer à Atmen que personne n'a caché quelqu'un d'autre, nous sommes en mer avec Erel Pelé, notre ami Erel, rappelez-vous, qui est patron pêcheur dans la baie de Brest, qui va pêcher la coquille Saint-Jacques. Et il y a quelques semaines, on s'était inquiété parce que le bateau était en panne, mais on a des bonnes nouvelles, Erel. Bonjour.
Bonjour. Allô, Edouard.
Alors, ça va mieux, Erel? Vous êtes reparti en mer?
Oui, ça y est, c'est réparé.
Donc, ça a duré combien de temps, cette panne?
Une semaine.
Une semaine de perte de pêche, c'est dur pour votre exploitation?
Bah oui, au mois de décembre, c'est super dur. C'est le moment où on fait... c'est le moment où il ne faut pas rater, quoi.
Bon, mais là, c'est reparti. Vous allez réussir à sauver votre saison?
Bah, j'espère.
Mais oui.
Maintenant, il faut que les prix montent, il faut que je pêche bien. Il y a encore plein de paramètres.
Donc là, on vous appelle, vous êtes déjà en mer, là?
Non, je suis en train de charger ma plaque, mon petit canot pour aller sur le bateau. Alors, je mets tous les paniers que je vais remplir de prêts ce matin, parce que ce matin, je vais au prêt.
C'est où les prairies? Ça se pêche où, ça, les prairies?
Ça se pêche aussi dans la rade de Brest, ça se pêche aussi avec une drague, mais avec une drague plus petite, plus légère. Beaucoup plus technique que la coquille, quand même.
C'est plus compliqué que la coquille Saint-Jacques, la prairie.
Ouais, c'est plus technique à pêcher, ouais. C'est beaucoup plus concentré.
Ça se pêche comment?
Ben, ça se pêche aussi avec une drague, et ça se pêche, en fait, on donne des à-coups dans la drague pour aller chercher les coquillages qui sont enfouis dans le sol.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez décidé d'aller aux prairies plutôt qu'aux coquilles Saint-Jacques?
Parce que je pêche toujours un peu les deux et que du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller aux prairies parce qu'on s'approche plus de celles. Que de toute façon, j'y vais toujours au moins une fois par semaine. Mais là, je crois que je vais y aller tous les jours cette semaine parce que les prix vont monter sur les prairies et ça va être plus intéressant que d'aller aux coquilles.
D'accord. Qu'est-ce qu'on vous souhaite d'en attraper combien? Il faudrait quelle quantité aujourd'hui pour que ça se passe bien?
On va au moins 200 kilos.
Alors, 200 kilos de prairies, vous nous direz si c'est bon. Puis je vous envoie un de mes gars, moi, Christophe, Atmen.
Moi, j'aime bien c'est comme les vongoles, les prairies, non? C'est ce qu'on met dans les pâtes, non? C'est ça?
Voilà, c'est ça.
Pas lourd
des huîtres. Voilà, c'est ça. Pas lourd des huîtres. Merci, Erel. Bonne pêche.
200 kilos, ouais, c'est bien.
Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, Edouard, quand tu viendras sur Brest, t'emmènerai la pêche avec moi.
D'accord, mais pas trop
comme
tôt.
Ça, tu comprendras tout ce que je te dis.
comprendre, enfin comprendre.
Ouais.
On ira draguer. On ira. Non, c'est pas draguer, c'est.
Si, draguer.
Draguer.
C'est ça,
oui,
bah, je vais draguer ce matin.
Merci, bonne drague.
Salut,
drague bien.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Je passe une matinée.
Mon Dieu, je passe une matinée. Atmen, vous avez préparé une chanson, Atmen Khelif. C'est gentil?
Oui,
c'est pas gentil.
Je pense que c'est un petit acte d'amour qu'on a voulu créer avec Tito pour ce lundi. Voilà, tout simplement.
Oh, c'est dégoulinant.
On est dans la magie de Noël, dans la féerie, dans le donné de Noël.
Ça me dégoûte tout ça. Pauline, ça se passe.
Alors. Toujours un peu espagnol. Ce matin, en me levant, je me suis pas brossé les dents. J'ai gardé du samedi mon haleine de whisky. Encore un lundi avec mes amis. Dehors il fait gris. Normal c'est Paris. J'ai laissé aussi au fond de mon lit la femme de ma vie. Immense samedi. Allez, solo, gère-toi.
Racadracadam, zoom, pay, ram, pam, tiri-titron. Allez, hey, taki-taki-tatam, poum, pay, taki-taki-taté.
C'est pour réveiller doucement l'ami. Mon crâne a subi les affres de la nuit. Il s'en est parmi. On n'est que lundi. Attends vendredi pour pousser les cris des gars du midi. J'ai la voix pétée, merci. On reviendra demain pour mardi.
Oui, ou pas forcément.
Moi, j'ai trouvé trop classe la chanson.
Christophe, vous avez aimé, Pauline?
J'ai adoré.
Oui, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout que je suis adepte du petit whisky du matin.
Oh.
Non, je plaisante.
Je sais pas, il y a à côté cette émission de chansonnier. Moi, j'ai l'impression d'être en 1932, le journal de Thierry Marais.
Radio Nova.
Le journaliste algérien Mohamed Tamalt est mort en prison. Il avait été condamné à 2 ans de prison l'été dernier pour offense aux institutions et au président. Mohamed Tamalt observait une grève de la faim depuis son arrestation. Les réactions sont très vives sur les réseaux sociaux. Affirmer un soutien à la population, c'est le message qu'entendent adresser Cécile Duflot, Hervé Mariton et Patrick Mennucci à la population syrienne. Les trois parlementaires sont partis hier pour la Syrie. Ils entendent accompagner le maire d'Alep Est le plus loin possible parce que ce dernier était en visite en France ces derniers jours et donc il rentre à Alep maintenant. Les trois parlementaires français doivent, eux, quoi qu'il arrive, rentrer en France demain. Profitant de la mobilisation de l'armée syrienne à Alep, les combattants du groupe État islamique ont repris hier la totalité de la ville de Palmyre, dans le centre du pays. Ils en avaient pourtant été délogés hier matin sous la pression de raids de l'aviation russe. Les drapeaux qui sont en berne en Turquie et une journée de deuil qui a été observée hier dans tout le pays. Le double attentat qui a tué au moins 38 personnes, dont 30 policiers à Istanbul, ce week-end près du stade du Beşiktaş a été revendiqué par les Faucons pour la liberté du Kurdistan, un groupe lié au PKK, mais toutefois ce dernier ne reconnaît pas les actions de ce groupe autonome. Les Faucons pour la liberté du Kurdistan se sont fait connaître par des actions kamikazes, c'est une technique que n'emploie pas la guérilla du PKK. Christine Lagarde face à ses juges, l'actuelle directrice du FMI, le Fonds monétaire international, comparaît cet après-midi devant la Cour de justice de la République en tant qu'ancienne ministre de l'économie. Elle est accusée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie face au Crédit Lyonnais. L'affaire LuxLeaks qui revient sur le devant de la scène judiciaire, les deux lanceurs d'alerte à l'origine du scandale vont se retrouver devant la justice luxembourgeoise aujourd'hui pour un procès en appel. Condamnés en première instance à de la prison avec sursis, ils espèrent bien sûr être blanchis. Il y avait des élections législatives hier en Roumanie et en Macédoine. D'abord en Roumanie, c'est la droite qui s'est imposée. La droite qui pourtant avait été expulsée du pouvoir par la rue il y a quoi un an à tout casser. Et puis en Macédoine, c'est plus tendu hein, puisque les deux camps revendiquent la victoire ce matin. La compagnie aérienne Iran Air a annoncé hier l'achat de 80 avions commerciaux Boeing. C'est un contrat sans précédent. Ouais, Iran Air, c'est mieux.
C'est les cheveux, ça, c'est le coiffeur, Iran Air.
C'est trop facile, Edouard, c'est vraiment trop facile.
Bah, vous avez votre prononciation, n'est-ce
pas? C'est un contrat sans précédent entre les États-Unis et l'Iran depuis la révolution de 1979. 17 ans de travaux plus tard, la Suisse inaugure, c'était ce week-end, elle a inauguré le plus long tunnel ferroviaire du monde, 57 km. Puisqu'on parle de construction, le Japon vient de commencer la construction de son stade olympique à Tokyo. Il doit être terminé en 2019. En fait, il doit être prêt pour les JO de 2020. Son coût, 1,22 milliard d'euros et ce stade est construit sur le site de celui qui avait accueilli les JO en 1964. On reste au Japon. Le pays vient d'envoyer dans l'espace un vaisseau de ravitaillement à destination de la Station Spatiale Internationale. Alors, particularité de ce vaisseau, il est accompagné d'un engin de nettoyage qui est chargé de récupérer les débris spatiaux laissés par l'activité de l'homme, hein, des morceaux de vieux satellites, par exemple. Récupérer, d'ailleurs, n'est pas le bon terme puisque cet engin va déplacer les débris spatiaux vers des orbites plus proches de la Terre afin qu'ils finissent par plonger dans l'atmosphère et donc se détruire tout seul. Les restrictions de circulation ont été suspendues en région parisienne. Aucun pic de pollution n'est prévu par les autorités aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution, évidemment. Certains parleront de début de crise à Nice. Le club n'a pu faire que match nul de partout hier soir au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. En clôture de la 17e journée de Ligue 1, auparavant, Lyon avait battu Rennes 1-0 et Saint-Etienne avait battu Guingamp sur le même score 1-0. Toujours en foot, on connaîtra ce midi les adversaires de Monaco et du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis on connaîtra aussi aujourd'hui le Ballon d'Or 2016, récompense individuelle d'un sport pourtant collectif. Depuis 8 ans, deux hommes seulement se partagent le titre, Messi et Ronaldo, et ça ne devrait pas changer aujourd'hui.
Il y a Griezmann quand même qui va arriver.
Bah, s'il vous plaît. Allons, messieurs.
Allons, s'il vous plaît.
Tenez-vous, est-ce que je m'intéresse au foot, moi?
Merci. Hein,
alors, prenez exemple sur moi.
Et puis la météo, alors j'ai négocié toute la nuit, je ne vais pas vous le cacher, elle entendait nous imposer de la pluie sur l'ensemble du territoire, j'ai argumenté. Et elle a entendu, finalement, il ne va pleuvoir que sur le nord du pays, de la Bretagne au Hauts-de-France, en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Quelques températures, là aussi, la discussion a été rude. 6 degrés sur Paris et Metz, 13 à Brest, 8 à Nantes et Clermont, 14 à Bordeaux, 13 à Marseille, 16 à Montpellier.
C'est qui elle?
La météo.
Ah, c'est la météo qui décide de la météo.
J'ai négocié personnellement toute la nuit avec la météo.
Tiens, Tito, en racatac, ça donne quoi? Et ben voilà, tout de suite, c'est plus clair. Jack, vous êtes toujours dans la rue. Quelle est l'humeur générale ce matin dans Paris?
Voilà, je suis sorti place des Abbesses et puis tout le monde est parti.
Il y a un lien, oui.
Je ne sais pas. Alors non, je voulais m'asseoir sur des bancs à côté d'une jeune femme. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous faites quoi là?
Rien. J'attends ma fille, elle est en stage.
C'est magnifique.
Vous attendez quoi?
Ma fille.
La fille?
Ma fille.
Votre fille?
Ouais.
Et vous étiez en train de lire un petit papier, c'était quoi?
Un cash.
Curieux.
Oui. Un cash. Voir si j'avais gagné de l'argent.
Vous avez joué au cash?
Ouais.
Et alors?
Bah rien. Comme d'hab.
Comme d'hab?
Ouais. On n'a pas de chance. Hein,
avoir comment ça va le corps ce matin?
Ça va.
Les jambes?
Très bien.
Et le nez, les oreilles?
C'est très bien.
Vous parlez derrière votre écharpe?
Oui, parce que je viens de me faire opérer.
Ah mince?
Oui.
C'est pas grave?
Non.
Ça va aller.
Oui.
Voilà, je fais le... Merci. Je fais le tour des bancs, en fait. Il y a plein de bancs ici.
Mais j'aimais bien cette dame. Vous l'avez laissée? Parce qu'elle avait une voix très agréable et puis elle ne faisait rien. Je trouve que c'est beau de rien faire avec beaucoup d'aplomb.
Oui, et puis elle a fait un tour sur elle-même et puis elle est partie.
Ah, c'est elle qui est partie. Donc, c'est jamais vous qui quittez les femmes. C'est souvent le contraire.
Non,
on me l'avait dit, ça.
Je ne quitte pas, moi. Oui. Non, mais je m'interrogeais sur ces bancs. Ils ont une histoire. Ils se disent que tous ces gens qui sont assis sur ces bancs, le banc, il doit raconter pas mal de choses. Il a dû recevoir beaucoup d'histoires. Elle repart avec son téléphone portable rose et elle pianote un SMS. Au revoir.
Vous pensez que beaucoup de gens se sont embrassés sur ces bancs ou pas?
Oui, je me dis qu'il a une histoire. Ça me rappelle un petit peu ce dessinateur Claude Ponty qui avait fait un petit dessin comme ça sur Georges Leban, qui racontait toutes les histoires des gens qui s'étaient assis sur son banc.
Mais si on aime trop le banc et que vous le personnalisez trop, on n'osera plus s'asseoir dessus parce qu'on n'ose pas s'asseoir sur les gens qu'on aime.
Ah oui. Oui. L'amour court les rues. C'est écrit là sur celui-là. Celui-là, il y a un petit gobelet en plastique avec une bouteille en bas. Et puis, voilà, une femme qui s'agite. On prend des journaux. Alors, j'ai vu tout à l'heure une dame qui prenait 25 journaux. Je sais pas, elle est donnée pour ses grand-mères, elle a dit. Et puis, le manège n'est pas animé, place des Abbesses. Il y a cette grande église. Les lampadaires magnifiques sont encore allumés.
Voilà, j'aime bien votre façon que vous avez ce matin, Jack, de faire feu de tout bois.
Oui,
il y a un vrai désarroi, il y a une beauté, il y a l'homme seul face à...
Il y a
un beau dialogue qui est plutôt un soliloque, mais c'est bien.
En même temps, tout est là.
Tout est là.
Il n'y a qu'à regarder.
Tout est là.
Je suis cet homme qui a les mains dans les poches, qui a l'air contrarié. Monsieur, bonjour, ça va?
Oui.
Est-ce que vous aviez le sourcil un petit peu renfoncé?
Non.
Vous étiez soucieux dans vos pensées?
Non, pas trop.
Non, vous voyez, je me suis fait une fausse idée.
C'est incroyable, tout à fait.
En fait, vous allez super bien.
Super bien.
Pourquoi j'ai pensé ça, moi, alors?
Peut-être c'est le sentiment de la journée.
Pensez?
Non, pas trop.
Je suis mélancolique.
Non, c'est pas... Tu me donnes une bonne impression, toi.
À tout de suite, Jack. Tout est là, les fausses idées, les bonnes impressions. Tout est là. On n'attend rien, on gratte un cache, et comme d'habitude, ça ne donne pas. Tout est là, les dialogues inachevés, les cathédrales qui s'allument, les métros qui s'éteignent, tout est là, les pas qui s'avancent, Montmartre qui sourit, tout est là à portée de la main, le bonheur est là. Cours-y vite, le bonheur est là, cours-y vite, il va filer.
7h-9h, Édouard Baird.
Plus près de toi. Yes.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Alors, le problème de nos correspondants région, c'est qu'ils veulent venir nous voir et on n'a plus de correspondants région. Marjorie, très souvent, on vous parle. Vous êtes infirmière à Perpignan.
Tout à fait.
Dans une maison de retraite.
Une maison de retraite, oui, à côté de Perpignan.
Mais alors là, vous êtes venue nous voir, ce qui est très gentil pour nous, mais alors vous avez laissé les pensionnaires tout seuls?
Oui, j'ai des collègues pour prendre la relève et voilà, je me suis accordé un petit peu de temps pour monter à Paris, comme on dit chez nous, et voilà.
Bon, alors restez, mais après, il y a Tito qui est le correspondant.
Oh, Marjorie.
Mais Tito,
Marjorie, quel bonheur.
Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas sur le lac d'Ourthe? Moi, j'en ai marre. De quoi on a l'air? Tous nos correspondants région sont ici.
C'est les fêtes, ils montent.
Bon, alors, ils montent à Paris. Qu'est-ce qu'on a? Pauline, depuis tout à l'heure, Pauline Escande Gauquier, double nom superbe. Vous êtes sémiologue depuis tout à l'heure. Vous êtes chargée d'étudier l'émission, les voix, les signes, les comportements. Quel est le petit bilan à mi-parcours?
Alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est la révélation Snowden avec cette société de la surveillance constante.
Oui.
Et je voulais juste mettre une alerte sur un livre d'Éric Sadin, qui est philosophe et qui vient de sortir un livre et qui montre finalement comment il n'y a plus de délibération démocratique et comment finalement la rationalité algorithmique, le big data, ce qu'on appelle le big data, a pris le dessus sur le libre arbitre. Voilà, ça veut dire que finalement aujourd'hui, c'est les machines qui décident à notre place. Et qu'on a de moins en moins de libre-arbitre.
Alors moi, je vois un vrai être humain quand même derrière vous. Là. Je vois que c'est vous qui décidez ce que vous dites. Alors vous avez parlé du contenu de l'émission. Sur les comportements, sur le style, qu'est-ce que vous diriez?
Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette dame-là qui nous a parlé d'amour. Voilà, parce que ça donne une petite fraîcheur après la révélation Snowden.
Oui.
Et il y a un ouvrage que j'adore, c'est « Fragments du discours amoureux » de Roland Barthes, qui parle de tous ces états dans lesquels nous met l'amour, le ravissement, le comblement, cette façon qu'on a tous de dire « je t'aime ». Voilà, donc cette petite touche de fraîcheur était la bienvenue.
Bon, là donc, vous trouvez que le dosage est assez
voilà,
juste
le dosage est très juste.
Entre le plein et le vide. Merci Pauline, l'invité de 8h13. Bernard Blajol, bonjour.
Bonjour.
Bernard, vous êtes président de la Société française
de l'IFP.
Pardon.
Imitateur francophone politique.
Voilà, c'est précis.
C'est assez précis, des imitateurs francophones politiques.
Oui.
Alors, vous me disiez qu'il y a un souci chez les imitateurs français, oui, c'est qu'on ne les avait pas vus venir. Vous me disiez Vincent Payon, Benoît Hamon, François Fillon. Que voulez-vous que je foute avec ces voix-là, oui. Puisque je rappelle que vous travaillez depuis plus de...
Moi, ça fait 5 ans que je bosse sur François Hollande, oui, dans mon travail.
Avec un travail de 6 à 7 heures par jour.
Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. C'est toute la journée.
Hollande, il est sur écran, il est sur...
Il est partout, je le travaille gutturalement.
Physiquement, puisque je... Alors les gens ne voient pas, vous avez fait de la chirurgie esthétique pour ressembler d'une façon assez étonnante.
J'ai beaucoup mangé aussi pour prendre son embonpoint.
Alors, profil gauche chez François Hollande, et à droite, c'est Sarkozy.
C'est Sarkozy, voilà, j'ai travaillé la double...
Donc c'est un investissement en chirurgie esthétique,
et, oui,
en travail d'imitation, et là, vous retrouvez, il y a quand même 45 000 euros.
Et là, je me retrouve un petit peu, on dirait, en panne sèche, c'est la boulette un petit peu. C'est peut-être l'accident industriel, parce que là, ils ont disparu, mes petits camarades. Et moi, je travaille depuis 5 ans. Je fais un petit panel comme ça d'imitation. J'avais travaillé. Moi, président, moi. Ou alors Sarko, dis donc, vous voulez qu'on vous débarrasse de cette racaille? Vous voyez, c'est tout un travail.
Je te dis franchement. Oui.
Je suis au chômage bientôt. Mais attendez.
Je peux te parler franchement.
Oui.
Je l'ai aimé le sketch, moi. Moi, je trouve que c'est... Non, franchement, Ahmed. On n'est pas nombreux.
On n'est pas nombreux.
Parce que je vois la tête de Méné. Je te dis pas qu'il y a... Je te dis pas. Attends. Je te dis pas que t'as hurlé de rire non plus. Je te dis pas.
C'est un bon début.
Non, mais attends.
Il y a eu des bons moments, quand même.
Non, j'ai senti le travail.
Oui, t'as senti le
travail. J'ai pas senti le talent, mais j'ai senti beaucoup de travail. J'ai senti des heures pour me préparer ce sketch et,
Oui, mais on y va quand même.
Moi, j'ai trouvé les imitations de qualité quand même.
Oui, mais vous n'avez pas ri à aucun moment, vous n'avez ri, Méné.
Ah bah non, quand même, faut pas déconner.
Non, mais on a essayé.
On
y reviendra.
On est droit, oui, on est droit dans nos bottes.
Voilà.
Et ben voilà, c'était les Beatles avec Girl sur Nova.
Pourquoi vous avez dit, voilà Armel, qu'est-ce que vous avez, je comprends pas.
Parce que je pense qu'il y a des gens qui cherchaient pendant tout le morceau, puis à la fin ils se sont dit, c'était les Beatles. Donc j'ai dit, voilà, vous avez
trouvé. Il est très amené ce, bravo Armel. Je suis de l'autre côté là, on ne vous montre jamais à la radio l'autre côté, je suis dans la salle technique, il y a Armel qui est là avec des bitonios très complets, il y a Eugénie qui est au téléphone. Eugénie, on a d'autres appels encore ce matin?
Oui, absolument.
Ah bah c'est là.
On va appeler qui? On va appeler Kamel, on va appeler Marius et Kamel.
Tout à l'heure, voilà, peut-être, parce que je ne sais pas si on aura le temps. Et puis il y a la rubrique Un jeune lycéen écoute l'émission. Quel est ton prénom?
Joseph.
Joseph, on t'écoute en plus en simultané. Tu sèches le cours pour venir?
Non, je commence à 9h30.
Et là tu es venu pour quoi, le raconte?
Je suis venu pour observer un peu comment ça marche.
Alors ça marche comment d'après toi?
Reste
dans le studio, puis si ça te choque ce qui va se passer, tu interviens. Reste là. Là, ça va te choquer parce que c'est Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour Marie.
Bonjour. Ce matin, parce qu'on est lundi et que le spectre terrifiant des fêtes arrive, j'ai décidé de prendre le risque de la naïveté. Voilà, ce sera le thème, le risque de la naïveté. Comme on dit dans Le Monde, la formule n'est pas de moi, Le Monde qui consacrait ce week-end, dans le numéro encore en kiosque ce matin, un article à Julie, candidate à Koh-Lanta, qui apparemment a fait l'objet de nombreuses discussions. Julie chante beaucoup, elle est tout le temps contente, elle sourit en permanence. Ça a d'abord énervé les gens qui finalement l'ont aimée. Et Le Monde rappelle qu'en France, où l'on respecte plus les gens contre que les gens pour, on a beaucoup de noms pas jojo pour ceux qui ont le sourire accroché à la face et s'obstinent à voir que le bon. Naïf, niais, nigo, nunuche, ingénu, godiche, benet, lunaire. Mais le fait est que la bonne humeur contagieuse de Julie a interpellé et elle a fait des envieux. Le Monde rappelle donc le slogan de la très sérieuse Ligue des Optimistes qui existe en France. Une ligue qui compte dans ses rangs Éric Orsenna et Mathieu Ricard par exemple, et qui dit: est-ce que vous avez déjà vu un pessimiste changer le monde? L'optimisme, parfois, c'est tout simplement se rappeler qu'on a le choix, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible, qu'à part la mort, finalement, il n'y a pas beaucoup de fatalité. Montrer qu'on a le choix, c'est un petit peu le credo de la bande d'amis qui a créé Framasoft, adepte du logiciel libre. Il crée Framasoft des équivalents à Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ce qu'on appelle entre initiés le GAFAM, des services équivalents fournis par des adeptes du logiciel libre. Le délégué général Pierre-Yves Gosset explique donc dans Le Monde: notre ambition n'est pas de remplacer les GAFAM, mais de proposer une alternative concrète, montrer que leur domination économique, technique et culturelle n'est pas pas une fatalité. D'autres choix sont possibles. Nous ne sommes pas obligés de nous résigner à la normalisation du village global américain. Du coup, ils ont créé Framadoc, par exemple, à la place de Google Doc, ou Tonton Roger. Tonton Roger qui se charge d'effectuer pour vous toutes vos recherches Internet. Du coup, quand Google veut en savoir plus sur vous, eh bien, il tombe sur ce bon Tonton Roger.
Qui n'existe pas, on ne le croise pas dans la vraie vie, Tonton
Disons
Roger.
Disons que c'est un accumulateur. C'est nous tous.
C'est une somme.
C'est toi, d'accord. C'est moi. Voilà. On sent qu'on tombe vraiment dans le royaume des optimistes actifs quand on apprend que tout le monde est invité à dupliquer le modèle de Framastoff, à créer de réseaux en prenant leur modèle et que ceux qui le font sont appelés des chatons. Et parmi les chatons de Framasoft, il y a la Fédération française des motards en colère. C'est donc ça un petit peu la force des optimistes qui font. Ils sont capables de prendre des motards en colère et de les transformer en chaton.
En chaton, chaton. Dès que vous dites le mot chaton, c'est 3 millions de vues supplémentaires.
Eh oui, c'est pour ça que je le fais. Si on reste sur le monde, on peut aussi se dire, toujours dans cette notion qu'optimiste, c'est avoir le choix. Comme Édouard Louis, l'odeur de En finir avec Eddie Bellegueule.
Vous avez dit l'odeur.
Ouais,
ce matin,
bah, peut-être que c'est un petit peu son odeur aussi. Oui, je me suis réveillée un peu tard, c'est vrai. Édouard Louis qui explique au monde comment il a fait d'un handicap assez tragique sa force principale. Il explique le manque d'amour m'a sauvé la vie ou comment le rejet de ses parents lui a permis de s'extirper de son milieu. Et puis, pour finir sur cette note, dans le même genre de « je prends un truc vraiment dur, terrorisant, douloureux, stigmatisant et j'en fais quelque chose de beau, voire d'utile », j'ai très envie de vous diriger vers un très bel article assez long de Vice France, écrit par Louise de Breteuil, qui, après plusieurs graves crises de démence, a été internée à Sainte-Anne en octobre. Elle raconte son quotidien, ses médocs, ses potes, Patrick, Antoine, le médium qui parle aux arbres, Abel, la réincarnation de Jésus ou de Clark Kent, selon ses envies du jour, Sofiane, et puis la femme héros ottomane et celle qui aime passionnément son épouse. C'est très bien écrit, ça semble très juste. On lit par exemple « Quand je retrouve Antoine, on a de grandes conversations philosophiques. Il m'explique que la douleur est toujours temporaire. On parle de la vie, de l'amour, des relations humaines. Il est très intelligent pour quelqu'un qui pense être un disciple de la réincarnation de Jésus. Ou plus loin encore, il est très intéressant même quand sa maladie le fait partir trop loin. Il essaie de me convaincre qu'il a convoqué un suricate qui se tient sur ma cuisse. J'ai beau avoir vérifié plusieurs fois, il n'y a qu'une clémentine à moitié entamée. Je lui dit que je ne le vois pas, il me répond « C'est normal, il est parti, il trouve que tu n'es pas sympa ». Elle remercie aussi longtemps les soignants et se prépare à vivre en dehors de cette bulle, qui sera sans doute difficile, mais comme on dit chez Framasoft, la route est longue, mais la voie est libre.
Merci, bravo Marie, vous êtes un peu trompée de consonne ce matin.
Oui, j'ai eu des problèmes de console.
Dans votre billet qui est toujours très brillant. Oui, c'est ça, je te console, très intéressant. Transformer la souffrance en geste artistique, n'est-ce pas? Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Tout de suite, la traduction par Tito. Merci Tito. On part dans la rue avec Jack, qu'on avait laissé sur les collines de Montmartre, sans doute en train peut-être de faire du ski, je ne sais pas.
Je suis redescendu, c'est complètement, le taux d'enneigement est très bas, très très bas là ce matin. Mais j'ai rencontré une personne qui était un master, il s'appelle, qui était en train de photographier des autocollants, des choses sur les murs, un peu de street art. Et là on était devant un panneau de sens interdit, où il y a un petit bonhomme qui efface le sens interdit. Et alors c'est qui?
C'est Kled, c'est un artiste français vivant en Italie et qui pose pas mal à Paris, sur tous les sens interdits. Il suffit de regarder les sens interdits, notamment sur la place d'Italie, vous faites tout le tour de la place d'Italie, tous les sens interdits ont été modifiés par différents logos, donc c'est assez énorme.
Alors Jack, vous avez présenté monsieur en disant « j'ai rencontré une personne », mais est-ce que ce n'est pas toujours cette quête de la personne? Est-ce que vous croyez qu'on peut tomber sur quelqu'un dans la rue par hasard et faire sa vie avec lui, monsieur?
Édouard, non. En tout cas, je te kiffe, Edouard, ça m'a fait délirer. C'est pour ça que je prends du temps pour parler.
Ah, bah c'est sympa.
Mais il est beau, hein. Il est beau, hein.
Non, je parlais pas de lui. Je voulais pas te foutre en ménage.
J'ai écouté vendredi et ça m'a fait délirer de le croiser aujourd'hui.
Ah, tu l'avais écouté à la radio, Jack?
Oui, je lui parlais qu'il avait été sur un petit logo. Vous êtes en zone libre ici et il m'avait fait délirer. Je l'ai croisé dans la rue de Beaubourg quand on avait fait chanter les enfants.
Voilà, ah, oui.
Donc en tout cas, ouais, non, je suis fan de street art. Levez les yeux, les enfants, parce qu'il y a plein de choses autour de Paris. Il y a plein de belles choses. Space Invader, il y a plein de street artistes qui posent, notamment à Montmartre. Aujourd'hui, c'était mon quartier, c'était Montmartre. J'ai eu la chance de croiser. Donc voilà.
Alors levez les yeux, tu as raison, sauf quand on passe à côté d'une bouche d'égout, parce que beaucoup d'enfants tombent en regardant trop haut.
Ah, et surtout avec les voitures électriques et les vélos, je vais te dire, faut te méfier hein, maintenant.
Voilà, alors si vous baissez les yeux, vous pouvez vous prendre une branche d'arbre. Si vous les levez, c'est un Vélib ou un trou d'égout, on s'en tire pas.
Mais ce qu'il y a, c'est que Master se lève le matin et va à la recherche de tous ces objets de street art avant d'aller au boulot.
C'est ça. Je navigue dans les rues pour trouver des petites beautés sur les murs, fantasmées.
Parce que Master, à côté de cette activité artistique, tu es comme tout le monde dans les assurances ?
Non, je suis dans la clim. Dans la clim.
Je t'en supplie. Attends, je t'en supplie, passe en studio. Je te jure qu'on a un problème. Jack, donnez l'adresse à Master parce qu'on en a un souci.
Il y a un chantier.
On est en plein hiver, je suis torse nu, c'est pas normal. Hein?
Bah c'est sûr. Non, si c'est pour venir te voir, ça serait un plaisir.
Allez, viens. Salut, Jack, tu nous l'amènes. Merci. Salut les gars.
Bonsoir, ciao et continue, c'est super, mec.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Parce que Atmen, vous pensez qu'il faut plus de jingles pour que l'émission soit plus rythmée ?
Oui, les jingles, ça réveille un peu les gens.
Oui, quel est le risque d'endormissement, là, vous m'inquiétez un petit
peu. Si on parle trop, il faut des jingles pour réveiller, c'est-à-dire un peu comme pour les infos, par exemple.
Parce que là, il y a Thierry Paré, là, il est 8h30, qu'est-ce qu'il lancerait bien ?
Pam, pam, tchink, pam, polong, pam, tam, tam, Thierry Paré !
Hein, comment, Tito ?
Rakatakata, pam, pam, c'est pas un jingle, ça !
Stop, on en a eu
plein. C'est une broyeuse à papier, ça, c'est une broyeuse à papier.
Sortez du journal.
L'armée syrienne contrôlerait 90% d'Alep Est ce matin. Le maire de la ville était en visite en France ces derniers jours. Alors il va rentrer aujourd'hui accompagné de Cécile Duflot, Hervé Mariton et Patrick Mennucci. Les trois parlementaires entendent accompagner le maire d'Alep le plus loin possible pour montrer leur soutien à la population. Profitant de la mobilisation de l'armée syrienne à Alep, les combattants du groupe État islamique ont repris hier la totalité de la ville de Palmyre dans le centre du pays. Ils en avaient pourtant été délogés hier matin sous la pression de raids de l'aviation russe. Les drapeaux qui sont en berne en Turquie aujourd'hui. Une journée de deuil a été observée hier dans tout le pays. Le double attentat qui a tué au moins 38 personnes à Istanbul ce week-end près du stade du Beşiktaş a été revendiqué par les Faucons pour la liberté du Kurdistan, un groupe lié au PKK, mais ce dernier ne reconnaît pas les actions de ce groupe autonome. Christine Lagarde face à ses juges, l'actuelle directrice du FMI, le Fonds monétaire international, comparaît cet après-midi devant la Cour de justice de la République en tant qu'ancienne ministre de l'économie. Elle est accusée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie face au Crédit Lyonnais. L'affaire LuxLeaks qui revient sur le devant de la scène judiciaire. Les deux lanceurs d'alerte à l'origine du scandale vont se retrouver devant la justice luxembourgeoise ce lundi pour un procès en appel. Condamnés en première instance à de la prison avec sursis, ils espèrent bien évidemment être blanchis. Il y avait des élections législatives hier en Roumanie et en Macédoine. D'abord en Roumanie, c'est la droite qui s'est imposée. La droite qui avait pourtant été expulsée du pouvoir par la rue, c'était l'an dernier, il n'y a pas longtemps. Et puis en Macédoine, c'est plus tendu puisque les deux camps revendiquent la victoire ce matin et il y a des manifestations en ce moment. Le journaliste algérien Mohamed Tamalt est mort en prison. Il avait été condamné à 2 ans de prison l'été dernier pour offense aux institutions et au président Bouteflika. Mohamed Tamalt observait une grève de la faim depuis son arrestation. Les réactions sont très vives sur les réseaux sociaux. Pas de restrictions de circulation aujourd'hui en région parisienne où aucun pic de pollution n'est prévu par les autorités.
Et vous nous annoncez ça comme quand il y avait des restrictions. C'est-à-dire que c'est aussi une mauvaise nouvelle chez vous. Restrictions demain. Pas de restrictions demain. Je ne sais pas.
Est-ce que tu y crois vraiment qu'il n'y a pas de pollution ?
Ah, théorie de conspiration. Il y a peut-être même des services secrets américains qui envoient des petites valises de pollution.
En tout cas, tiens, il y a un truc intéressant, c'est Svalbard. Svalbard, c'est un archipel norvégien et selon des chercheurs britanniques, puisqu'on parle d'environnement, le poids moyen des rennes de cet archipel aurait diminué de 12% depuis 1994. C'est une évolution qui serait liée, selon ces chercheurs, au changement climatique, au réchauffement climatique. La fin de la 17e journée de Ligue 1, c'est du foot. Le PSG et Nice se sont séparés sur un nul de partout. Les Parisiens étaient menés 2-0. Auparavant, Lyon a battu Rennes 1-0. Même score pour Saint-Etienne face à Guingamp. Au classement, Nice est en tête devant Monaco et le PSG. Toujours en foot, on connaîtra ce midi les adversaires de Monaco et du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et puis on connaîtra aussi aujourd'hui le Ballon d'Or 2016, récompense individuelle d'un sport pourtant collectif. La météo, il va pleuvoir sur le nord du pays, de la Bretagne au Hauts-de-France, en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Quelques températures, 6 degrés sur Paris et sur Metz, 13 à Brest, 8 à Nantes et Clermont, 14 à Bordeaux, 13 à Marseille, 16 du côté de Montpellier.
Merci Thierry. L'invité de 8h33. Bernard Blajol, bonjour. Vous êtes auteur de La météo n'existe pas, et avec des documents accablants qui montrent que beaucoup des chiffres météo sont en fait une invention des services secrets américains.
Aidés par les services secrets russes.
Pour inciter les gens à rester chez eux ou au contraire à sortir. Donc c'est assez étonnant parce que dans ce document, vous nous montrez que dès qu'on annonce 20 degrés, tout le monde sort et dès qu'on est à moins 2, les gens rentrent chez eux. C'est bien le signe qu'il y a une manipulation.
D'ailleurs, moi je suis surveillé, je suis sur écoute.
Voilà. Et vous êtes très couvert.
Très couvert.
Alors qu'il fait très chaud. chaud, donc vous n'avez pas les mêmes infos que les autres.
Je fais le contraire de ce qu'on me dit, parce que je suis contre cette politique qui incite les gens à rester chez eux.
C'est ça. Vous pensez qu'il faut sortir quand on vous dit de rester, qu'il faut rester quand on vous dit de sortir.
Il faut sortir tout nu quand il fait, voilà.
Alors vous êtes, vous êtes très souvent, on vous a repéré devant quelques écoles françaises avec cet imperméable aussi. Vous m'avez dit, c'est un complot des services secrets.
Oui, on m'arrête souvent. Et j'ai dit non,
soi-disant parce que vous fréquentez des toilettes publiques à essayer de rentrer en contact avec des gens du même sexe. Voilà, bah c'est bien, c'est propre, on est droit dans nos bottes, un sketch de qualité. Tu me le mets en boîte celui-là. Thomas Baumgartner et moi, et maintenant vous, si vous nous écoutez, nous sommes avec David Thompson. Bonjour David.
Bonjour.
David, vous êtes l'auteur des Revenants, qui est un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est la somme d'articles que vous aviez déjà publiés dans les jours.
Augmenté.
Augmenté, il y a un plus.
Une partie inédite.
Oui, parce que sinon les gens vont dire... Non. ces hommes et ces femmes qui étaient partis faire le djihad et qui ont eu l'idée de revenir sur le sol français. Donc là, ça continue, des gens arrivent chaque jour.
Bah là, effectivement, il y a plus de gens qui rentrent que de gens qui partent, parce que c'est beaucoup plus difficile maintenant de partir là-bas, parce que l'État islamique contrôle plus la frontière turque. Avant, faut imaginer, ils avaient des postes frontières officiels avec la Turquie. Les types passaient en tamponnant leur passeport, comme pour n'importe quel autre pays. Certains arrivaient avec des voitures de luxe en location de France. Donc c'était une situation complètement surréaliste. Donc là, aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure-là, et on est plutôt dans une situation où les gens reviennent déçus, de ce qu'ils ont découvert là-bas, déçus, mais bon, pas forcément repentis, même s'il y a des repentis, mais ils sont minoritaires.
Donc vous voulez dire que les gens partent moins parce que c'est plus difficile de passer, ou aussi parce que c'est moins attractif?
C'est un petit peu... Alors les deux, c'est déjà la principale raison, c'est que c'est beaucoup plus difficile de passer, mais il y a aussi une attractivité qui est moins grande, parce qu'en fait l'État islamique, ils avaient en gros deux gros arguments en leur faveur. Le premier, c'était de dire, de 2013 à 2015, nous sommes sur un élan de victoire, personne ne nous arrête, et c'était vrai. Et donc ça leur permettait de dire, donc nous sommes portés par la providence, Dieu est avec nous. Donc c'était la preuve de cette force un peu prophétique. Ils se disaient toujours sur la voie prophétique, et ça, des gens qui ont une éducation musulmane, ça peut faire écho. Et puis, surtout, c'était le fait qu'ils avaient réussi en Syrie et en Irak à construire cette espèce de proto-État djihadiste qui leur permettait de dire... nous avons créé la cité idéale pour tous les musulmans, etc. Aujourd'hui, ça c'est de moins en moins le cas, puisqu'ils reculent sur tous les fronts et parce qu'ils sont en train de perdre cette territorialité. Donc l'attractivité, elle est moins grande.
Aujourd'hui, David Thompson, il y a combien de personnes, combien de gens encore sur place qui font le djihad et combien sont revenus, pour qu'on sache à peu près ce que ça représente?
On a les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur qui sont très précis. Ressortissants français sur place en Syrie et en Irak, un petit peu plus de 700. Le ratio de ceux qui sont revenus et de ceux qui sont tués est à peu près équivalent. C'est un cinquième, 200 retours, 200 tués. Et puis, il y a un chiffre, c'est celui des enfants. Entre 400 et 450 enfants français qui sont là-bas, auxquels il faut... C'est un chiffre auquel on ajoute les 700 français. 400, 450. Un tiers sont nés là-bas. Et en fait, ça, c'est inédit parce que c'est des enfants qui ont été conditionnés dans cette idéologie, qui sont nés là-dedans. Certains, notamment les petits garçons, à partir de 9 ans, ils sont envoyés au camp d'entraînement. Certains ont été utilisés pour exécuter des prisonniers. Donc, ces enfants vont revenir... Le cas de figure, c'est pas encore présenté, mais il va se présenter. Et ça, c'est un enjeu majeur pour les autorités françaises.
Alors vous, ceux que vous avez écoutés, que vous avez interrogés, ces revenants qui font l'objet donc de ce livre, David Thompson, qu'est-ce qu'ils ont en commun dans ce travail-là? C'est une des questions qui se posent, évidemment, parce que vous les écoutez et vous apprenez des choses sur eux, et notamment sur leur vie religieuse avant de faire le djihad. C'est pas forcément des gens qui avaient une vie religieuse très intense.
Ouais, en fait, j'ai essayé de savoir. Déjà, l'objet de ce travail, c'est comment on devient djihadiste. Donc moi, comment je m'y suis pris, simplement en leur posant la question directement à eux. La particularité de ce travail, c'est que c'est un travail qui est basé uniquement sur des sources primaires. Il y a rien d'autre, c'est-à-dire des entretiens directs avec eux. Et l'idée, c'était de comprendre comment ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, et pourquoi ils sont revenus, et dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui. C'est ça, en fait, l'objet du travail, de ces entretiens que j'ai menés pendant 2 ans et demi avec eux. Il y a un substrat sociologique qui est souvent commun, quand même. C'est-à-dire que c'est dans le discours gouvernemental, on a souvent mis en avant des profils de blancs, des profils de classe moyenne, des profils... ces profils existent. Il y a un djihad de bonne famille, mais c'est des profils qui sont quand même assez minoritaires. La majorité, c'est des gens qui ont grandi dans les quartiers sensibles, qui sont issus des minorités. Même au sein des convertis, je considère que une bonne moitié, voire plus d'entre eux, sont eux-mêmes issus de minorités. Il y a une surreprésentation, par exemple, des Antillais au sein des convertis. Donc ça, c'est signifiant. Ça peut pas, c'est à prendre en compte. Donc ça, c'est. Et après, si vous voulez, bon. J'y réponds dans le livre pour en parler pendant des heures et des heures sur ce qui constitue le substrat. Mais l'idée, c'est de dire ça ne peut pas arriver à tout le monde, ça n'arrive pas à tout le monde.
Il manque à ces gens-là une cause à défendre, souvent. Vous retrouvez ça dans les entretiens que vous faites, une forme de. Vous parlez de transcendance parfois qui manque et ils trouvent ça là, éventuellement.
Mais en fait, c'est central. C'est-à-dire que le djihadisme, parmi toutes les causes qui font que ça a fonctionné à la période actuelle, il y a effectivement le vide idéologique contemporain. Et le djihadisme s'immisce dans ce vide, comble ce vide. Il y a un jeune qui me disait, et c'est pour ça que la fameuse théorie de l'islamisation de la radicalité, qui a été théorisée par l'anthropologue Alain Bartho, reprise par Olivier Roy ensuite, je la trouvais extrêmement valide. Parce que moi, j'ai rencontré des jeunes qui l'incarnaient littéralement sans même entendu parler. Et ils me disaient, bah oui, moi j'avais eu cette éducation musulmane très structurée quand j'étais petit, j'avais appris le Coran par cœur, la biographie du prophète, etc. Et puis j'avais toujours cette radicalité politique. Il me disait j'avais envie d'être un homme politique. Et parfois, j'étais plutôt favorable aux idées du Front National, alors que c'était un jeune issu de l'immigration marocaine. D'autres fois par l'extrême gauche. J'avais cette radicalité politique. Et à un moment donné, il me disait, je le cite, mais qui dans l'islam politique aujourd'hui répond à cette radicalité. Il m'a dit, pour moi, c'était clair que c'était Al-Qaïda. Donc, c'est vrai, ça, c'est l'incarnation même de cette idée d'islamisation de la radicalité. Donc, oui, ça comble un vide idéologique. Il me dit, s'il y avait eu autre chose, j'aurais pu, à une autre époque, rejoindre des internationalistes communistes. Mais voilà, là, j'avais cette éducation musulmane et ça a coïncidé avec cette radicalité et cette idéologie.
Voilà, donc Les Revenants, c'est un livre qui paraît au Seuil, coédité par Les Jours. C'est aussi une série d'articles, Les Obsessions, que vous signez sur lejour.fr. Un dernier point, vous ne croyez pas vraiment à la prise en charge aujourd'hui de ces gens qui reviennent, de ces djihadistes qui reviennent.
La fameuse déradicalisation. C'est-à-dire que des gens sortent de cette idéologie, certains s'expriment dans le livre, mais uniquement à travers des parcours personnels, des prises de conscience personnelles, des proches qui les ont influencés. Je ne connais personne qui soit sorti de cette idéologie au contact d'un programme de déradicalisation d'État. Ces programmes, à mon avis, leur seule raison d'être, même si ça a évolué, de 2014 à 2016, c'était de permettre de dire au ministère de l'Intérieur, nous faisons quelque chose.
Merci David Thompson.
Merci,
et merci
à vous.
Thomas
Bouchard. Je vous en prie, monsieur.
Et merci et puis à d'autres gens, je vais donner des listes de gens. Merci, à tout de suite. Il est 46 déjà.
Voilà, David Thompson avait laissé son blouson parce que j'ai pas la même. Fermez la porte.
Je suis obligé, excusez-moi. Je vous fais participer à la petite
c'est
vie.
Obligé de faire la police.
Des petites choses tout simples qui sont. On parle des grands courants internationaux, nationaux aussi. Puis de temps en temps, il faut fermer une porte. De temps en temps, on a une petite tache à son blouson, puis c'est aussi ça la vie. Bonjour Atmen, ça va? Atmen, toi tu es allé au théâtre ce week-end et tu m'as dit que tu avais bien aimé la pièce.
L'éveil du chameau avec Pascal Elbé, Barbara Schultz.
Alors c'est à Paris au théâtre de l'Atelier.
Oui, j'en parle parce que c'est jusqu'au 31 et c'est vraiment une petite bulle de bonheur. C'est mis en scène intelligemment, c'est très très bien joué. Barbara Schultz, c'est vraiment pleine, elle est pleine de conviction, elle est entre Romy Schneider et Annie Girardot, et c'est vraiment une pièce sur la paternité, et quand on est père, ça fait du bien d'entendre ça, voilà, de voir ça.
Et alors ceux qui ne sont pas n'ont pas droit à ça, d'accord, merci.
L'éveil du chameau. Voilà.
Ah oui, mais alors c'est des amis à vous, donc je ne peux pas.
Oui, c'est un petit peu du piston, un peu.
C'est du copinage.
Non, moi je les connais. Non, c'est très bien. Et j'ai vu la pièce et j'ai adoré.
Très bien.
Enfin, je connais Valérie de Cobert, qui est géniale. C'est très 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 bien fait, voilà. Très bien mis en scène,
c'est bien joué,
et il faut y aller.
C'est bien joué.
Parce que je trouve que dans cette espèce de terrain-là, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment dans Paris.
Il y a Armel qui fait des signes, je ne comprends absolument rien.
Vous ne comprenez pas mes petits signes?
J'ai cru que c'était un truc pour qu'un avion puisse atterrir. Donc
il y a 747 qui est là.
Oui, il attend.
Quel est le signe?
Le signe, c'est qu'il faudrait envoyer la pub pour ensuite passer au live.
Oui, alors il y a le live. Jack, souvent, voulait me parler un peu. Il y a la jeune stagiaire qui m'apporte un café. J'amène une vite Pacha. Merci, Romy.
Très beau pull rouge.
Allô, Jack.
Oui. J'ai trouvé un petit hôtel, là.
Vous en cherchiez un?
C'est combien le prix des chambres, monsieur?
Ça dépend.
ça dépend, 35, 40.
Une petite chambre sympa, juste pour quelques heures.
Individuel pour deux personnes?
Pour l'instant, je suis tout seul, mais peut-être deux, oui.
Ouais, bon, 35 euros.
35, c'est super, ça.
Super, oui.
Ouais, c'est pas cool.
Vous avez passé toute la nuit ici?
Ouais, ouais, toute la nuit, comme d'hab.
Quelles sont les commodités de cette chambre, chaude ou froide?
Il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide, il y a de tout. Hein.
Mais c'est raisonnable, c'est des draps qui sont individualisés, qui sont
pour rapport à... Ouais, ça dépend. Il y a des chambres qui sont, il y a des lits, il y a deux lits, il y a des chambres qui ont un grand lit.
Il y a
des draps, il y a tout.
Et alors quand on arrive seul ou on arrive ouais. Et alors il y a quelqu'un qui, non, il y a pas quelqu'un qui attend déjà. Enfin, il y a des gens qui arrivent.
Ouais, dites-nous tout, monsieur. Dites-nous les secrets de cet hôtel.
Comment les secrets?
Vous savez bien.
Il n'y a pas de secret.
Balancez tout, monsieur. On est en famille.
Non. Vous réservez, vous venez, on vous accueille.
Ah, c'est ça qui est très mystérieux, cette tradition d'accueil qui se perd beaucoup. Vous avez dormi cette nuit, monsieur? Il y a eu beaucoup d'allers-retours ou pas?
Si, ouais. Bon, ça dépend. Ouais. Ouais.
Les derniers sont rentrés à quelle heure?
Ça marche ces jours-là. Les derniers, ça rentre vers 3 heures. Ouais.
Il y a eu du bruit dans les chambres, il y a eu des rires, des chants.
Non, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cris, non.
Et vous-même, vous avez l'air d'être très zen, d'être très tranquille, vous en avez dû en voir.
C'est ça.
Vous avez quand même la calculette sur le bureau?
Oui, je suis en train de faire le calcul pour mon collègue qui va venir, alors. Ou gentiment, alors.
Combien d'argent vous avez mis dans la poche, là?
Dans la poche ou bien dans la caisse?
C'est deux caisses très différentes.
C'est dans la caisse, pas dans la poche. Ouais.
Merci. Il y a le petit déjeuner en chambre ou pas?
Non, il n'y en a pas.
Non, 35-40, non, Atmen. Dans quel monde vivez-vous, mon vieux? À tout à l'heure, monsieur, vous me prenez deux chambres.
Ok.
Dans une pour Atmen, puis l'autre aussi.
Bon,
tiens.
Je réserve.
Oui, parce qu'il y a la pub quand même, je suis obligé.
7h-9h, Edouard Baird. Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
On va se faire engueuler par Yacine et Thomas, les 30 Glorieuses, qui vont commencer en retard. Pauline, on va rejoindre le live. Laurent et Camélia, ce projet s'appelle Lost. Comment s'est passée l'émission, Pauline? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Vous êtes sémiologue, je rappelle, vous nous avez étudié depuis 2 heures.
Alors, j'en ai retiré deux choses. Un registre de langue dominant, qui est celui de l'ironie de l'absurde.
Voilà. Oui.
Et puis, une gestuelle très typique d'Edouard, qui est une gestuelle un peu grandiloquente.
Voilà. Bon, bah, je vous remercie, je sais pas. Venez vous asseoir. Bonjour, Laurent et Camélia. Alors, il y a plein de mystères autour de ce projet Lost. Rudy, qu'en savez-vous?
Tout à fait. Ben, je sais pas, c'est hyper complexe de présenter l'inconnu, d'autant lorsque je les ai appelés hier pour essayer de recueillir un peu d'anecdotes de croustillance, la réponse a été, on n'a pas d'anecdotes, nous avons juste rêvé de toi en chroniqueur culinaire à Francfort.
Oui, donc ça nous en dit pas beaucoup plus sur ce qu'on va écouter, sur le live mystérieux d'aujourd'hui.
Exactement.
En plus, ils sont masqués.
Ils ont un téléphone à la main, ils ont des écharpes, des grosses barbes.
Ils sont assez beaux quand même.
C'est cette rencontre entre cette voix à part, assez puissante, qui se cache sous le mystérieux prénom de Camélia, et Laurent, brillant musicien,
très mystérieux,
multi-instrumentiste bien connu de cette antenne pour être un des membres fondateurs des fantastiques groupes Limousine et Ponyhawks. Le premier morceau qu'ils vont faire est en arabe, ça s'appelle Fir Halami, qui veut dire mon drapeau.
Mais bien sûr, ça veut dire mon drapeau, je le savais.
Évidemment.
À tout de suite.
Lost, bonne naissance, bon accouchement. C'est
on a la
vous.
Chance,
merci
la première
là.
Fois que Lost se produit sur des ondes françaises et internationales. Magnifique. Cette voix de Camélia qui me fait des frissons à chaque fois. C'est même pas encore enregistré, il s'appelle Lost. Et...
Il y aura un album qui sortira en 2017 sur Arista et j'ai trouvé ça très très puissant. On l'a entendu, toi comment Edouard et les auditeurs pour la première fois.
Camélia et Laurent Lost, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée, à demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.